amis et collègues de MEB à Bogado sur la partie, notamment conditions générales de vente, certaines clauses, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre sur les sites et est-ce que ça vaut la peine de bien y réfléchir plutôt que là aussi de tout simplement de traduire ce qu'on a fait en France. Donc je crois que c'est Claudia qui entame cette partie-là et qui va nous éclairer là-dessus également de façon très, très conviviale et pratique. Merci Claudia.
Merci. Bon, actuellement, il est possible de tout acheter par Internet. Ce constat a conduit le législateur européen à promulguer au cours des dernières décennies de très nombreuses directives en matière de consommation afin de favoriser la liberté de circulation des marchandises en Europe et de renforcer la protection du consommateur. Ces directives permettent dans une certaine mesure d'harmoniser certaines règles et pratiques, mais elles doivent être transposées dans chacun des États membres, ce qui conduit à certaines différences au moment de la transposition ou de l'interprétation qui est faite des textes. Bon, pour cette raison, la réglementation en matière de commerce électronique est similaire en Espagne et en France. Par exemple, le délai de rétractation ou desistimiento en espagnol ou le délai maximum de livraison sont identiques. Mais il subsiste quand même des différences dont il est important de tenir compte lorsque l'on souhaite s'ouvrir au marché espagnol. Lors de l'implantation d'un projet de vente en ligne, un nombre significatif de nos clients nous propose de se contenter de traduire leurs conditions générales de vente ou CGV en espagnol. Cette solution, bien qu'elle soit attirante d'un point de vue économique, peut se révéler totalement inadaptée car les risques associés peuvent s'avérer importants si les autorités espagnoles contrôlent de manière assidue les pratiques commerciales des opérateurs et sont assez protectrices des consommateurs. En matière de consommation et conformément au règlement Rome 1, dans lequel je ne vais pas entrer dans le détail, la loi applicable au contrat est en principe celle du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel dirige par tout moyen cette activité vers ce pays, ce qui est le cas si le site internet est en espagnol notamment. Par ailleurs, et pour compliquer encore les choses, en Espagne, les communautés autonomes ont compétence pour légiférer dans certaines matières. En plus, conformément au système de rang de priorité de l'ordre juridique espagnol et en application d'un principe dénommé principe de spécialité, une loi promulguée par une communauté autonome sera appliquée de manière préférentielle à une loi étatique. La réglementation du commerce intérieur est une des compétences attribuées aux communautés autonomes et ce sont donc les administrations autonomiques qui contrôlent le respect du droit de la consommation et ont le pouvoir de contrôler les CGV, entre autres. Ici, au cabinet, nous avons déjà pu constater des divergences d'interprétation de la part des administrations pour des mêmes CGV. Il convient également de souligner que les sanctions imposées par chacune de ces administrations sont cumulatives. On peut trouver un exemple de sanctions imposées par différents raisons et qui s'accumulent entre la région de Madrid, la Catalogne et les Baléares. Si l'administration espagnole est décentralisée, une autre particularité est qu'il existe 4 langues officielles en Espagne, l'espagnol, le catalan, le basque et le galicien. Alors, l'entreprise qui entend commercialiser ses produits ou services en Espagne va être donc confrontée à l'obligation de disposer des conditions générales de vente et des documents commerciaux dans différentes langues. En Catalogne, la loi oblige à disposer d'une version des conditions générales de vente en catalan si le consommateur le demande. Aussi, la rédaction des CGV est également un des éléments à tenir en compte. En effet, la clarté des dispositions déterminera dans certains cas si le droit d'information du consommateur a été respecté et les nuances peuvent se révéler très importantes. Par exemple, en cas d'anomalie lors de la livraison, en France, le client est souvent invité à inscrire l'ensemble de ses réserves sur le bon de livraison. Ces réserves doivent être manuscrites, détaillées, datées, explicites et accompagnées de la signature sur le bordereau de livraison. Mais cette obligation est une reprise du droit de transport français qui n'a pas d'équivalent en Espagne. cette pratique est considérée comme abusive par l'administration espagnole parce qu'à son avis, elle entraîne un transfert des risques du transport sur le consommateur. Alors, on ne pourrait pas inclure une telle clause dans le CGP. On peut citer encore l'exemple de la garantie légale de conformité qui est de 200 dans les deux pays, mais qui n'est pas soumise au même délai de notification pour les consommateurs. En France, le consommateur n'est soumis à qu'un délai, alors qu'en Espagne, il dispose d'un délai de 2 mois à compter de la découverte de la non-conformité. En conclusion, si les sociétés n'adaptent pas ces éléments au marché espagnol, elles risquent de provoquer des dysfonctionnements dans leur activité et sont susceptibles de générer des réclamations de la part des clients ou des administrations. Il y a aussi d'autres essentiellement pratiques qui ne sont pas purement légales, mais qu'on retrouve assez souvent lors de la révision des CGP. Par exemple, les modes de paiement. En France, le paiement par chèque est beaucoup, beaucoup plus répandu qu'en Espagne. Ici, presque personne ne dispose d'un chéquier et on utilise les chèques quasiment uniquement pour les signatures chez le notaire. Si le consommateur souhaite payer par virement bancaire et que l'entreprise est établie en France et le compte bancaire est français, il faudrait également indiquer ce qu'on appelle le code BIC ou SWIFT afin que le consommateur puisse faire le virement depuis l'Espagne. Une autre différence culturelle concerne les horaires de livraison des prestataires, tandis qu'en France, le créneau de livraison sera en général entre 9h et 17h. Il faudra l'adapter en Espagne en tenant compte des prestataires et de ses horaires. Finalement, le numéro de téléphone du service client ne peut pas être un numéro de français car les tarifs pour un appel réalisé depuis l'Espagne comporteraient des tarifs importants. Et bon, c'est pas des choses légales, mais celles-ci que je viens de citer, mais je pense qu'il convient aussi de les prendre en compte. Je vais passer la parole à ma collègue et associée du cabinet Lorio qui parlera des protections des données et de tout ça.
Merci, bonjour à tous. Merci à la Chambre d'organiser ce webinaire. Je vais effectivement, dans le prolongement de ce que Claudia vient de vous expliquer, faire le point sur certaines autres choses auxquelles il faut penser d'adapter. À part les CGV, en fait, il y a également, bien sûr, le site internet, les informations qu'il contient, mais aussi toutes les opérations promotionnelles qu'un professionnel peut souhaiter mettre en place. La publicité, les pratiques commerciales, ce sont des points sur lesquels il convient d'être vigilant. Une fois encore, le droit européen est venu quand même très largement harmoniser les réglementations nationales. Donc on a de très grandes similitudes, mais il y a quand même encore des différences qui subsistent. Donc à titre d'exemple, pour illustrer mon propos, on peut citer les mentions légales du site internet. Donc, les mentions légales du site internet, en France et en Espagne, on peut reconnaître que globalement, c'est plus ou moins les mêmes informations. Donc, bien évidemment, les informations sur le professionnel, ses coordonnées, son numéro de RCS, qui serait le numéro d'identification fiscale en Espagne, etc. Mais il y a quelques petites subtilités, donc il faut toujours bien vérifier qu'on est conforme avec cette réglementation. Par exemple, pour vous donner un exemple, pour ce qui est des professions réglementées, il y a une différence entre la réglementation française et espagnole, notamment par exemple en Espagne, il faut mettre son numéro d'inscription au sein de l'ordre professionnel auquel on est rattaché. En France, on doit mentionner sur son site internet le numéro de CV intracommunautaire, ce qui n'est pas forcément le cas en Espagne. Donc là encore, une assez grande similarité et proximité, mais des différences. Pour ce qui concerne, pour illustrer encore ces différences qui peuvent être subtiles, mais qui peuvent finalement s'avérer importantes concrètement, on peut citer également la politique des cookies. Donc globalement, c'est encore une fois la même chose entre la France et l'Espagne, c'est une grande similarité, on peut dire qu'on peut reprendre dans les grandes lignes la politique de cookies qu'on a mis en place dans l'Internet français. Ceci étant, il y a par exemple des différences d'interprétation entre les autorités espagnoles et françaises. Donc, quand en France, on invite ou on recommande les professionnels à renouveler le consentement des consommateurs aux cookies tous les 13 mois, en Espagne, c'est un délai de 24 mois. Donc, encore une fois, une différence. Pour ce qui concerne la publicité, la présentation de votre site internet, les pratiques commerciales, etc., tout ça est basé sur, on a des pratiques qui sont illicites, notamment les pratiques trompeuses, abusives, etc. Ce socle est fondé sur une réglementation communautaire tant en France qu'en Espagne, mais il convient là encore d'analyser la situation au cas par cas, parce qu'on peut avoir des divergences d'interprétation, et comme vous le savez, en pratique, la licéité d'une présentation ou d'une publicité ou d'un site internet peut parfois être un peu à la frontière limite, un peu grise, donc toujours avoir cette analyse pays et local. Pour ce qui est des opérations promotionnelles, par exemple les soldes, en Espagne, on a, donc Claudia, vous parlez tout à l'heure de la réglementation des communautés autonomes. Pour ce qui concerne les soldes, elle est réglementée, il y a une harmonisation au niveau national. Il n'y a plus de période de solde à respecter comme en France, mais il y a également des différences entre la réglementation française et espagnole. Un autre point important, quand vous organisez des opérations promotionnelles, par exemple, tout ce qui est jeu, concours ou loterie, vous aurez une obligation de liquider des impôts sur les lots que vous attribuerez aux gagnants. Donc, globalement, il n'y a pas de grande divergence à signaler, mais il faut être vigilant lors de la transposition de son site internet, sa présentation, ses politiques commerciales, pour toujours s'assurer qu'on est en conformité avec le droit espagnol. Pour ce qui concerne la protection des données, alors c'est un grand sujet, et encore plus en Espagne, comme vous allez le voir. Alors là, au contraire de ce qu'on vient de vous expliquer, il y a une beaucoup plus grande harmonisation, puisque le fameux RGPD, le règlement sur la protection des données, est un règlement d'application directe, donc il n'y a pas besoin d'une transposition dans les États membres. Donc il y a une beaucoup plus grande harmonie, même si concrètement, chacun des États peut, au travers de ses lois, venir préciser, adapter des dispositions du RGPD en droit interne, ou préciser des règles qui sont consacrées dans le règlement. C'est à cet égard, d'ailleurs, que la loi espagnole a développé tout un tas de droits digitaux pour le consommateur qui sont différents ou qui ne sont pas aussi consacrés de manière aussi ferme dans la loi française, aussi explicite. Je vais pas vous donner tous ces droits parce que la plupart ne concernent pas le e-commerce, mais il y a deux droits intéressants sur ces droits digitaux, le droit à l'oubli des recherches effectuées sur Internet, par exemple, ou l'oubli sur les réseaux sociaux qui peut être lié à une activité de e-commerce. Mais globalement, les différences en fait de réglementation en soi ne sont pas significatives, d'autant que les deux pays, en fait, dans leur ligne directrice et leur approche, viennent s'appuyer sur les analyses d'un organisme qui s'appelle le groupe 29, de l'article 29, qui est chargé d'interpréter le RGPD. Et globalement, les deux pays reprennent ces directives. Mais il y a quand même certaines pratiques qui sont vraiment différentes en France et en Espagne. Et surtout, ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'il y a une très grande différence au niveau du contrôle et au niveau des sanctions. Vous verrez dans les slides qui vous seront communiqués la semaine prochaine que, pour vous donner à titre d'illustration, on a à peu près le même nombre de plaintes en France et en Espagne qui sont faites à la CNIL et à l'AEPD, qui est l'Agencia de Protección de Datos, qui est son équivalent espagnol. Donc on a d'un côté 14 000 et de l'autre côté 11 000 plaintes, donc finalement c'est un peu la même chose. Au niveau des contrôles, on est à 300 en France et on est déjà à 526 en Espagne. Mais c'est surtout en fait sur les sanctions, vous allez voir, c'est vraiment tout à fait significatif. Quand en France, on a 42 mises en demeure de la CNIL, en Espagne, on a 338 procedimientos e funcionadores, qui sont les procédures de contrôle et de mesures coercitives. Il y a vraiment un grand souci en Espagne du respect de la protection des données, avec une grande vigilance et également à noter, pour un peu nuancer ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la grande uniformité des règles, il y a quand même une plus grande protection de la Agencia de Protección de Datos. Et pour conclure, je vous donnerai simplement un exemple sur l'information en fait, qui est communiquée aux consommateurs. Donc, les sites de e-commerce qui collectent le nom, enfin, les données des consommateurs pour faire des campagnes de promotion, donc qui sont fondées sur l'intérêt légitime, l'agence de protection des données, par exemple, recommande en fait, d'inclure dans les informations communiquées aux consommateurs, ce qui n'est pas le cas en France, une information beaucoup plus détaillée. Donc, le professionnel devrait expliquer les critères qui ont permis de mettre en balance l'intérêt légitime du consommateur et l'intérêt légitime du commerçant pour récolter ces données. Donc, c'est vraiment un point sur lequel il faut être très, très rigoureux parce qu'en Espagne, finalement, le régime mis en place est beaucoup plus strict et coercitif en pratique. Et je repasse la parole à Véronique, qui, je pense, va introduire nos collègues comptables et fiscalistes qui ont également des choses intéressantes et très importantes à vous dire. Véronique, on ne t'entend pas. Pardon.
L'idée, c'est de vous rendre attentif un certain nombre de points importants, et la RGPD fait vraiment partie d'un plan d'observation qu'il faut peut-être contraster quand vous aurez un projet dans l'Espagne avec un avocat ou quelqu'un qui peut vous suivre là-dessus, en tous les cas quelqu'un de droit qui peut vous préciser un certain nombre de choses. C'est vrai que c'est extrêmement contrôlé. L'État espagnol n'hésite pas à observer, à suivre, à intervenir. On l'a vu sur des exemples très précis, mais qui sont à la limite du commerce en ligne et de la fiscalité. On